Le 4 avril 1984. Hier soir, au cinéma. Que des films de guerre. Un très bon film sur un bateau rempli de réfugiés bombardés quelque part en Méditerranée. Le public a été très amusé par les plans d'un homme obèse qui essayait de s'enfuir à la nage avec un hélicoptère à ses trousses. D'abord, on le voyait se vautrer dans l'eau comme un marsouin. Puis on le voyait à travers le viseur des hélicoptères. Puis il était plein de trous et la mer autour de lui est devenue rose. Et il a coulé aussi soudainement que si les trous avaient laissé entrer l'eau. Le public hurlait de rire quand il a coulé. Puis on voyait un canot de sauvetage rempli d'enfants avec un hélicoptère qui le survolait. Il y avait une femme d'âge moyen, peut-être une juive, assise à la proue avec un petit garçon d'environ 3 ans dans les bras. Le petit garçon criait de peur et cachait sa tête entre ses seins comme s'il essayait de s'enfoncer en elle, et la femme mettait ses bras autour de lui et le réconfortait, bien qu'elle ait elle-même une peur bleue, le serrant autant que possible comme si elle pensait que ses bras pouvaient le protéger des balles. Puis l'hélicoptère a posé une bombe de 20 kilos au milieu d'un éclair terrible et le bateau s'est brisé comme une allumette. Puis il y a eu un magnifique cliché d'un bras d'enfant qui s'élevait dans les airs. Sans doute un plan filmé d'un hélicoptère muni d'une caméra à l'avant de l'appareil. Et alors, un tonnerre d'applaudissements retentit depuis les fauteuils de l'orchestre. Mais au balcon, dans la partie prolétaire, une femme s'est mise à taper des pieds et à crier. « Ils n'auraient pas dû le montrer. Pas devant des enfants. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à ce que la police la mette dehors. Je suppose qu'il ne lui est rien arrivé. Personne ne se soucie de ce que disent les prolétaires. Réaction typique des prolétaires, ils ne l'ont jamais fait. » Winston s'arrêta d'écrire, en partie parce qu'il souffrait de crampes. Il ne savait pas ce qui l'avait poussé à déverser ce flot d'ordures. Mais ce qui est curieux, c'est que pendant qu'il le faisait, un souvenir totalement différent s'était révélé dans son esprit, au point que c'était comme s'il l'avait écrit. C'est à cause de cet autre incident qu'il avait soudain décidé de venir chez lui pour commencer son journal aujourd'hui. C'était arrivé ce matin-là au ministère, si l'on peut dire que quelque chose d'aussi nébuleux s'est produit. Il était près de 11 heures, et au service des archives où travaillait Winston, on sortait des chaises des cabines et les regroupait au centre du hall, en face du grand télécran, en préparation de 2 minutes de la haine. Winston était en train de prendre sa place dans l'une des rangées du milieu, lorsque 2 personnes qu'il connaissait de vue, mais à qui il n'avait jamais parlé, sont entrées à l'improviste dans la salle. L'une d'elles était une fille qu'il croisait souvent dans les couloirs. Il ne connaissait pas son nom, mais il savait qu'elle travaillait dans le département de fiction. Comme il l'avait parfois vue avec des mains huileuses et une clé à molette, elle devait avoir un travail mécanique sur l'une des machines à écrire des romans. C'était une fille audacieuse, d'environ 27 ans, avec des cheveux épais, des taches de rousseur sur le visage et des mouvements rapides et athlétiques. Une étroite ceinture écarlate, emblème de la Ligue anti-sexe des juniors, a été enroulée à plusieurs reprises autour de la taille de sa salopette, juste assez serrée pour faire ressortir la forme de ses hanches. Winston l'avait détestée dès le premier instant où il l'a vue. Il en connaissait la raison. C'était à cause de l'atmosphère des terrains de hockey, des bains froids, des randonnées communautaires et de la propreté mentale générale qu'elle incarnait si bien. Il détestait presque toutes les femmes, et surtout les jeunes et les jolies. Ce sont toujours les femmes et surtout les jeunes qui ont été les adhérentes les plus fanatiques du parti, les avaleuses de slogans, les espionnes amateurs et les fouineuses d'hérésie. Mais cette fille en particulier lui donnait l'impression d'être plus dangereuse que la plupart. Une fois, lorsqu'ils sont passés dans le couloir, elle lui a jeté un rapide regard de côté qui a semblé le transpercer et l'a rempli pendant un instant d'une terreur noire. L'idée lui avait même traversé l'esprit qu'elle pourrait être un agent de la police de la pensée. C'était toutefois très peu probable. Pourtant, il continuait à ressentir un malaise particulier, dans lequel la peur se mêlait à l'hostilité, chaque fois qu'elle se trouvait près de lui. L'autre personne était un homme nommé O'Brien, membre du parti intérieur et titulaire d'un poste si important et si éloigné que Winston n'avait qu'une vague idée de sa nature. Un silence soudain se fit dans le groupe autour des chaises alors qu'il vit s'approcher la salopette noire d'un membre du parti intérieur. O'Brien était un homme grand et costaud, avec un cou épais et un visage grossier, caustique et brutal. En dépit de son apparence formidable, il avait un certain charme dans ses manières. Il avait une astuce pour remettre ses lunettes sur son nez qui était curieusement désarmante, d'une manière indéfinissable curieusement civilisée. C'était un geste qui, si quelqu'un avait encore pensé en ces termes, aurait pu rappeler un noble du XVIIIe siècle offrant sa tabatière. Winston avait peut-être vu O'Brien une douzaine de fois en presque autant d'années. Il se sentait profondément attiré par lui. Et pas seulement parce qu'il était intrigué par le contraste entre les manières urbaines d'O'Brien et son physique de lutteur. C'était bien plus à cause d'une croyance secrète, ou peut-être même pas une croyance, simplement un espoir, que l'orthodoxie politique d'O'Brien n'était pas parfaite. Quelque chose dans son visage le suggérait irrésistiblement. Et encore une fois, ce n'est peut-être même pas l'absence d'orthodoxie sur son visage, mais simplement l'intelligence. Mais en tout cas, il avait l'apparence d'une personne à qui l'on pouvait parler si d'une manière ou d'une autre, on pouvait tromper le télécran et la voir pour soi seule. Winston n'avait jamais fait le moindre effort pour vérifier cette supposition. En effet, il n'y avait aucun moyen de le faire. À ce moment-là, O'Brien jeta un coup d'œil à sa montre bracelet, vit qu'il était près de 11 heures et décida évidemment de rester au service des archives jusqu'à ce que les 2 minutes de la haine soient terminées. Il prit une chaise dans la même rangée que Winston, 2 places plus loin. Une petite femme aux cheveux de sable qui travaillait dans le bureau voisin de Winston se trouvait entre les deux. La fille aux cheveux noirs était assise juste derrière. L'instant d'après, un discours hideux et grinçant, comme celui d'une monstrueuse machine fonctionnant sans huile, a jailli du grand télécran au bout de la pièce. C'était un bruit qui mettait les dents à rude épreuve et faisait hérisser les cheveux à l'arrière de la nuque. Les 2 minutes de la haine avaient commencé. Comme d'habitude, le visage d'Emmanuel Goldstein, l'ennemi du peuple, avait surgi sur l'écran. Il y avait des sifflements ici et là parmi le public. La petite femme aux cheveux de sable émettait un grincement de peur et de dégoût mêlé. Goldstein était le renégat et le récidiviste qui, il y a bien longtemps, personne ne s'en souvient, avait été l'une des figures de proue du parti, presque au même niveau que Big Brother lui-même. Puis s'était engagé dans des activités contre-révolutionnaires, avait été condamné à mort et avait mystérieusement fui et disparu. Les programmes de « Les 2 minutes de la haine » varient de jour en jour, mais il n'y a pas eu de programme dans lequel Goldstein n'était pas la figure principale. Il était le premier traître, le premier profanateur de la pureté du parti. Tous les crimes ultérieurs contre le parti, toutes les traîtrises, les actes de sabotage, les hérésies, les déviations sont le fruit de son enseignement. Quelque part, il était encore en vie et faisait éclore ses conspirations. Peut-être quelque part au-delà de la mer, sous la protection de ses payeurs étrangers. Peut-être même, c'est ce que l'on a parfois entendu dire, dans une cachette en Océanie même. Le diaphragme de Winston était resserré. Il ne pouvait jamais voir le visage de Goldstein sans un douloureux mélange d'émotions. C'était un visage juif, maigre, avec une grande auréole floue de cheveux blancs et une petite barbichette. Un visage intelligent et pourtant intrinsèquement méprisable, avec une sorte de bêtise sénile dans le long nez fin, sur lequel une paire de lunettes était perchée. Il ressemblait à un mouton jusque dans sa voix. Goldstein lançait son attaque venimeuse habituelle contre les doctrines du parti, une attaque si exagérée et si perverse qu'un enfant l'aurait percée à jour, et pourtant juste assez plausible pour donner à quelqu'un le sentiment inquiétant que d'autres personnes, moins calmes que lui, pourraient être prises au piège. Il insultait Big Brother. Il dénonçait la dictature du parti. Il exigeait la conclusion immédiate de la paix avec l'Eurasie. Il prônait la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté de penser. Il criait hystériquement que la révolution avait été trahie. Et tout cela dans un discours polysyllabique rapide qui était une sorte de parodie du style habituel des orateurs du parti, et contenait même des mots de novlangue. Plus de mots de novlangue, en effet, que tout membre du parti utiliserait normalement dans la vie réelle. Et pendant ce temps, de crainte que l'on ne doute que les propos de Goldstein ne soient spécieux, derrière sa tête, sur le télécran, défilaient les colonnes sans fin de l'armée eurasienne, rangées après rangées d'hommes à l'air solide et au visage asiatique sans expression, qui nageaient jusqu'à la surface de l'écran et disparaissaient pour être remplacés par d'autres exactement semblables. Le bruit sourd et rythmé des bottes des soldats formait l'arrière-plan de la voix bêlante de Goldstein. 30 secondes avant que les 2 minutes de la haine aient commencé, des exclamations incontrôlables de rage ont éclaté de la moitié des personnes présentes dans la salle. Le visage de mouton satisfait à l'écran et la puissance terrifiante de l'armée eurasienne derrière lui étaient trop lourds à porter. En outre, la vue ou même la pensée de Goldstein produisait automatiquement la peur et la colère. Il était un objet de haine plus constant que l'Eurasia ou l'Estasia. Car lorsque l'Océanie était en guerre avec l'une de ses puissances, elle était généralement en paix avec l'autre. Mais ce qui est étrange, c'est que bien que Goldstein ait été détesté et méprisé par tout le monde, bien que chaque jour et 1000 fois par jour sur des plateformes, à l'écran, dans les journaux, dans les livres, ses théories aient été réfutées, écrasées, ridiculisées, présentées au regard général pour les pitoyables bêtises qu'elles étaient, malgré tout cela, son influence n'a jamais semblé diminuer. Il y avait toujours de nouvelles personnes qui attendaient d'être séduites par lui. Un jour ne s'est jamais écoulé sans que les espions et les saboteurs agissant sous ses ordres ne soient démasqués par la police de la pensée. Il était le commandant d'une vaste armée de l'ombre, un réseau clandestin de conspirateurs voués au renversement de l'État. La fraternité était censé être son nom. On murmurait aussi l'histoire d'un livre terrible, un recueil de toutes les hérésies dont Goldstein était l'auteur et qui circulait clandestinement ici et là. C'était un livre sans titre. Les gens l'appelaient, si tant est qu'ils l'appelaient, tout simplement le livre. Mais on ne connaissait ces choses que par de vagues rumeurs. Ni la confrérie, ni le livre n'étaient un sujet que tout membre ordinaire du parti mentionnerait s'il y avait un moyen de l'éviter. Dans la seconde minute, les 2 minutes de la haine s'est emballée. Les gens sautaient à leur place et criaient à tue-tête pour tenter de noyer la voix bêlée, exaspérante qui sortait de l'écran. La petite femme aux cheveux de sable était devenue rose vif, et sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson débarqué. Même le visage lourd d'O'Brien était rouge. Il était assis très droit sur sa chaise, sa puissante poitrine gonflée et frémissante comme s'il se tenait debout face à l'assaut d'une vague. La fille aux cheveux noirs derrière Winston s'était mise à crier « Porc ! Porc ! » Elle a soudain pris un lourd dictionnaire de novlangue et l'a jeté à l'écran. Il a frappé le nez de Goldstein et a rebondi. La voix a continué inexorablement. Dans un moment de lucidité, Winston découvrit qu'il criait avec les autres et qu'il donnait violemment des coups de talon contre le barreau de sa chaise. L'horreur de « Les 2 minutes de la haine » n'est pas que l'on soit obligé de jouer un rôle, mais au contraire, qu'il soit impossible de ne pas y participer. En 30 secondes, toute prétention était toujours inutile. Une hideuse extase de peur et de vindicte, un désir de tuer, de torturer, de défoncer des visages à coups de marteau, semblait traverser les spectateurs comme un courant électrique, transformant même contre son gré un individu en un fou grimaçant et hurlant. Et pourtant, la rage que l'on ressentait était une émotion abstraite, non dirigée, qui pouvait passer d'un objet à l'autre comme la flamme d'une lampe à souder. Ainsi, à un moment donné, la haine de Winston ne s'est pas du tout retournée contre Goldstein, mais au contraire, contre Big Brother, le parti et la police de la pensée. Et à de tels moments, son cœur s'est tourné vers les solitaires, ridiculisés hérétiques à l'écran, seuls gardiens de la vérité et de la raison dans un monde de mensonges. Et pourtant, l'instant d'après, il ne faisait plus qu'un avec les gens autour de lui. Et tout ce qui était dit de Goldstein lui semblait vrai. À ces moments-là, sa haine secrète de Big Brother se transforma en adoration. Et Big Brother semblait s'élever, un protecteur invincible et sans peur se dressant comme un rocher contre les hordes d'Asie. Et Goldstein, malgré son isolement, son impuissance et le doute qui planait sur son existence même, semblait être un sinistre enchanteur, capable par le simple pouvoir de sa voix de détruire la structure de la civilisation. Il était même possible à certains moments de changer sa haine de telle ou telle façon par un acte volontaire. Soudain, par le genre d'effort violent avec lequel on arrache la tête de l'oreiller dans un cauchemar, Winston a réussi à transférer sa haine du visage à l'écran à la fille aux cheveux noirs derrière lui. De belles et vives hallucinations ont traversé son esprit. Il la fouettait à mort avec une matraque en caoutchouc. Il l'attachait nue à un pieu et lui lançait des flèches comme Saint-Sébastien. Il la ravissait et lui tranchait la gorge au moment de l'orgasme. Mieux qu'avant, d'ailleurs, il a compris pourquoi il la détestait. Il la détestait parce qu'elle était jeune, jolie et sans sexe. Parce qu'il voulait coucher avec elle et ne le ferait jamais. Parce qu'autour de sa douce taille souple qui semblait vous demander de l'entourer de vos bras, il n'y avait que l'odieuse ceinture écarlate, symbole agressif de la chasteté. La haine atteignit son point culminant. La voix de Goldstein était devenue un véritable bêlement de mouton et pendant un instant, le visage se transforma en celui d'un mouton. Puis le visage de mouton se fondit dans la figure d'un soldat eurasien qui semblait avancer, énorme et terrible, sa mitraillette rugissant et semblant jaillir de la surface de l'écran, si bien que certaines des personnes au premier rang se mirent à reculer dans leur siège. Mais au même moment, tirant un profond soupir de soulagement de tout le monde, la figure hostile s'est fondue dans le visage de Big Brother, aux cheveux et à la moustache noire, plein de puissance et de calme mystérieux, et si vaste qu'il a presque rempli l'écran. Personne n'a entendu ce que disait Big Brother. Ce n'était que quelques mots d'encouragement, le genre de mots qui sont prononcés dans le vacarme de la bataille, qui ne se distinguent pas individuellement, mais qui redonne confiance en soi par le fait d'être prononcé. Puis le visage de Big Brother s'est à nouveau effacé. Et au lieu de cela, les trois slogans du parti se sont distingués, en majuscule grâce. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Mais le visage de Big Brother semblait persister pendant plusieurs secondes à l'écran, comme si l'impact qu'il avait eu sur les rétines de l'ensemble des spectateurs était trop vif pour se dissiper immédiatement. La petite femme aux cheveux de sable s'était jetée en avant sur le dossier de la chaise devant elle. Avec un murmure tremblant qui ressemblait à « Mon sauveur », elle a tendu les bras vers l'écran. Puis elle a enfoui son visage dans ses mains. Il était évident qu'elle prononçait une prière. À ce moment-là, toute l'assistance a entonné un chant profond, lent et rythmé de « bébé, bébé » encore et encore, très lentement, avec une longue pause entre le premier « b » et le second. Un son lourd, comme un murmure, curieusement sauvage, derrière lequel on semblait entendre le bruit des pieds nus et les battements des tam-tams. Cela dura encore peut-être 30 secondes. C'était un refrain que l'on entendait souvent dans les moments d'émotion intense. C'était en partie une sorte d'hymne à la sagesse et à la majesté de Big Brother. Mais c'était plus encore un acte d'auto-hypnose, une noyade délibérée de la conscience au moyen d'un bruit rythmique. Les entrailles de Winston semblaient se refroidir. Dans les 2 minutes de la haine, il ne pouvait s'empêcher de partager le délire général. Mais ce chant sous-humain de « bé, 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 bé » l'a toujours rempli d'horreur. Bien sûr, il chantait avec les autres. Il était impossible de faire autrement. Dissimuler ses sentiments, contrôler son visage, faire ce que tout le monde faisait, était une réaction instinctive. Mais il y a eu un espace de quelques secondes pendant lequel l'expression de ses yeux aurait pu le trahir. Et c'est exactement à ce moment que la chose significative s'est produite. Si, en effet, elle s'est produite. Momentanément, il a attiré l'attention d'O'Brien. O'Brien s'était levé. Il avait enlevé ses lunettes et était en train de les remettre sur son nez avec son geste caractéristique. Mais il y a eu une fraction de seconde quand leurs regards se sont croisés, et pendant tout le temps qu'il a fallu pour que Winston se rende compte, oui, il sut qu'O'Brien pensait la même chose que lui. Un message sans équivoque était passé. C'était comme si leurs deux esprits s'étaient ouverts et que les pensées passaient de l'un à l'autre à travers leurs yeux. « Je suis avec vous », semblait lui dire O'Brien. « Je sais précisément ce que vous ressentez. Je sais tout de votre mépris, de votre haine, de votre dégoût. Mais ne vous inquiétez pas, je suis de votre côté. » Et puis l'éclair d'intelligence a disparu, et le visage d'O'Brien était aussi impénétrable que celui de tous les autres. C'était tout. Et il n'était déjà pas sûr que cela se soit produit. De tels incidents n'ont jamais eu de suite. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de maintenir en lui la croyance ou l'espoir que d'autres que lui étaient les ennemis du parti. Peut-être les rumeurs de vastes conspirations souterraines étaient-elles vraies après tout. Peut-être la fraternité existait-elle vraiment. Il était impossible, malgré les arrestations et les confessions sans fin, et les exécutions, d'être sûr que la fraternité n'était pas seulement un mythe. Certains jours, il y croyait. D'autres, non. Il n'y avait aucune preuve, seulement des aperçus fugaces qui pouvaient signifier quelque chose ou rien. Des bribes de conversations entendues. De faibles gribouillages sur les murs des toilettes. Une fois même, lorsque deux étrangers se sont rencontrés, un petit mouvement de la main qui avait semblé être un signe de reconnaissance. Ce n'était qu'une supposition. Il est fort probable qu'il avait tout imaginé. Il était retourné à son bureau sans regarder O'Brien. L'idée de donner suite à leur contact momentané ne lui a guère traversé l'esprit. Cela aurait été inconcevable et dangereux, même s'il avait su comment s'y prendre. Pendant une seconde, 2 secondes, ils avaient échangé un regard équivoque, et c'était la fin de l'histoire. Mais même cela a été un événement mémorable, dans la solitude enfermée dans laquelle il fallait vivre. Winston s'est réveillé, s'est assis plus droit. Il a fait un raw. Le gin remontait de son estomac. Ses yeux se recentrèrent sur la page. Il découvrit qu'alors qu'il était assis, impuissant à réfléchir, il avait aussi écrit comme par automatisme. Et ce n'était plus la même écriture, encombrante et maladroite qu'auparavant. Son stylo avait glissé voluptueusement sur le papier lisse, imprimant en grandes lettres majuscules soignées « Abba Big Brother ». 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 Abba Big Brother, encore et encore, remplissant une demi-page. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de panique. C'était absurde, car l'écriture de ces mots particuliers n'était pas plus dangereuse que l'acte initial d'ouverture du journal, mais pendant un moment, il fut tenté d'arracher les pages gâchées et d'abandonner complètement l'entreprise. Il ne l'a pas fait cependant parce qu'il savait que c'était inutile. Qu'il ait écrit « Abba Big Brother » ou qu'il se soit abstenu de l'écrire, cela n'a fait aucune différence. Qu'il ait continué à écrire son journal ou qu'il ne l'ait pas fait, cela ne faisait aucune différence. La police de la pensée l'aurait attrapé de la même façon. Il avait commis et aurait encore commis, même s'il n'avait jamais posé la plume sur le papier, le crime essentiel qui contient tous les autres en soi. C'est ce qu'ils appelaient le crime de la pensée. Le crime psychologique n'est pas une chose qui peut être dissimulée pour toujours. On pouvait réussir à l'esquiver pendant un certain temps, voire pendant des années, mais tôt ou tard, ils allaient forcément vous attraper. C'était toujours la nuit. Les arrestations se produisaient invariablement la nuit. La sortie brutale du sommeil, la main rugueuse qui vous secoue l'épaule, les lumières qui vous éblouissent, le cercle de visages durs autour du lit. Dans la grande majorité des cas, il n'y a pas eu de procès, pas de rapport d'arrestation. Les gens disparaissaient tout simplement, toujours pendant la nuit. Votre nom a été rayé des registres. Toutes les traces de ce que vous aviez fait ont été effacées. Votre existence unique a été niée, puis oubliée. Vous avez été aboli, anéanti. Vaporisé était le mot habituel. Pendant un moment, il a été saisi d'une sorte d'hystérie. Il a commencé à écrire dans un gribouillis pressé et désordonné « Ils me tireront dessus, je m'en fiche. Ils me tireront dans le dos, une balle dans la nuque, je m'en fiche. Abba, Big Brother. Ils tirent toujours dans votre dos et visent la nuque, je m'en fiche. Abba, Big Brother. » Il s'assit sur sa chaise, légèrement honteux de lui-même, et posa le stylo. L'instant d'après, il tressaillit violemment. On avait frappé à la porte. Déjà ? Il resta assis aussi immobile qu'une souris dans l'espoir vain que celui qui avait frappé disparaisse après une seule tentative. Mais non. Les coups ont été répétés. Le pire serait de retarder. Son cœur battait comme un tambour, mais son visage, par habitude, était probablement sans expression. Il se leva et se dirigea lourdement vers la porte.